Bien, bonjour à tous, et c'est pour moi un très très grand plaisir ce soir que d'accueillir dans ces salons Albert Mola Alain de Barito du Carpia, car tout d'abord ça me rajeunit beaucoup, parce que ça me renvoie à mes premières années de thésard, de doctorant, quand je commençais à travailler sur la noblesse bordelaise. C'est à ce moment-là, au milieu des années 1980, que j'avais eu le plaisir de rencontrer Alain de Barito, qui m'avait fait l'amabilité de me recevoir pour me présenter sa famille. En effet, sa famille est l'une des plus anciennes du Bordelais, famille de parlementaires. C'est d'ailleurs l'une de celles qui incarne, on aura l'occasion d'en reparler ce soir, la mémoire de ce Parlement de Bordeaux, qui était un petit peu le symbole de la noblesse bordelaise, dans la mesure où la noblesse bordelaise était une noblesse de robe. Alain de Barito m'avait déjà à l'époque passionné sur l'histoire de sa famille, qu'il connaît remarquablement bien, car c'est un amateur d'histoire, un érudit qui a toujours été passionné par l'histoire, et nous avons toujours eu des discussions extrêmement intéressantes autour de ces familles de parlementaires. C'est pour ça que quand il a fait paraître son livre sur la famille de Barito, j'ai d'abord eu le plaisir de le préfacer. C'est un honneur, et j'ai donc le plaisir de l'accueillir ce soir. Alors, ma première question sera toute simple, ce sera de nous présenter cette famille de Barito, l'une des plus anciennes du Bordelais, puisqu'elle remonte à la fin du XVe siècle. Quelles sont exactement les origines de votre famille, et donc les origines de la noblesse des Barito du Carpia?
Avant même de parler de la Guyenne, il faut parler des origines vendéennes de la famille. Comme vous le savez sans doute, les noms en O, AUT, AULD, AULT, etc. sont la plupart du temps d'origine vendéenne. Et les Barito sont arrivés de Vendée, soit à la fin du XIVe siècle, soit dans la première moitié du XVe siècle, mais on n'a pas de documents précis. Et alors, il y avait une tradition de famille que je n'ai pas pu vérifier, si ce n'est qu'il y a un certain nombre de présomptions, mais les historiens savent bien que, mieux que moi, qu'il faut une preuve. Donc, il y avait au Moyen-Âge une famille noble en Vendée, dont le premier membre connu apparaît en 1099 et le dernier en 1411, à peu près à l'époque où les premiers Barito de Guyenne apparaissent. Donc, il y a un certain nombre de présomptions qui laisse penser qu'il y avait une continuité entre ces deux familles, mais il n'y a pas de preuves historiques, pas de documents précis. Donc, honnêtement, on ne peut pas dire c'est la même famille. Donc, les Barito de Guyenne, le premier vraiment qui apparaissent avec un document est cité en 1482. Il vend un domaine situé à côté de Saint-Émilion, alors que lui-même était paroissien de Sainte-Foy, future Sainte-Foy-la-Grande. Et puis ensuite, on en trouve deux ou trois dans les années 1480, mais la filiation commence à Jean, qui a fait son testament en 1499. Et à partir de lui, on est sans interruption jusqu'à aujourd'hui, avec six branches différentes et beaucoup de monde dont on aura l'occasion de reparler.
Alors, votre livre, quand on l'ouvre, c'est un livre de généalogie, je dirais qu'il en a la forme, mais quand on le regarde de plus près, c'est beaucoup plus qu'un livre de généalogie, car il s'appuie sur des documents très précis, il renvoie à ces documents. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelle a été votre méthode de travail dans cette affaire?
Oui, d'abord, il y a longtemps que j'avais en tête de faire une généalogie de ma famille. D'ailleurs, je ne suis pas le premier, puisqu'il y a eu un premier ouvrage qui a été écrit en 1901 par Pierre Meller, qui était un érudit régional très connu et un généalogiste, et qui était réputé, ce qui était rare dans sa profession au XIXe siècle et dans les siècles précédents, réputé pour son honnêteté, c'est-à-dire que non seulement c'était un très bon chercheur, mais il n'en rajoutait pas, parce que bien souvent, les généalogistes d'autrefois brodaient pour faire plaisir à leurs clients, à leurs familles, et souvent moyennant en finances d'ailleurs. Et donc ce n'était pas le cas de Pierre Meller, qui était parfaitement honnête et qui n'inventait rien. Cela dit, il n'avait pas eu accès à toutes les archives auxquelles j'ai eu la chance, moi, de pouvoir accéder. Et son livre était un peu squelettique, si vous voulez. Et j'ai voulu faire quelque chose de différent, parce qu'une généalogie sèche, c'est le plus souvent une longue litanie de naissance, mariage, décès, etc. Et ça devient vite très ennuyeux, à la rigueur pour la famille directement concernée, mais pour les autres, c'est franchement très ennuyeux. Donc moi, j'ai voulu essayer, dans la mesure du possible, de mettre en rapport avec l'époque dans laquelle ils vivaient tous les personnages que j'ai rencontrés, pour que ça soit plus vivant et que ça soit aussi un témoignage des usages d'autrefois et des mentalités d'autrefois. J'ai eu la chance de trouver de très nombreux documents, non seulement dans les archives familiales, qui ont constitué évidemment une base de travail très importante, et en particulier grâce à une de mes cousines qui a tout mis sur ordinateur avec une patience formidable, ce que j'aurais été incapable de faire, et puis des chercheurs professionnels, un à Bordeaux qui est ici ce soir et que je salue au passage, et un autre à Paris, qui m'ont fait beaucoup de recherches dans les archives publiques, archives départementales et municipales de Bordeaux, les archives des notaires de Saint-Macaire, puisque la famille s'est installée d'abord à Saint-Macaire, et puis les archives nationales et les archives des armées à Vincennes, puisqu'il y a eu beaucoup d'officiers, une quarantaine environ, dont 30 pour l'Ancien Régime, donc il a fallu aller chercher dans les archives militaires.
Oui, alors, je l'ai dit au début, nous avons affaire à une grande famille de robe, à une famille du Parlement, qui s'est illustrée au Parlement, qui s'est illustrée aussi à la Cour des Aides, donc dans les deux cours importantes à Bordeaux, il y en a une troisième qui est le Bureau des Finances, des cours sur lesquels nous avons, nous historiens, beaucoup travaillé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette identité liée à la robe? Et est-ce que cette famille, j'ai dit que c'était l'une des mémoires du Parlement, parce que nous avons comme cela un certain nombre de familles qui restent au Parlement pendant très longtemps, alors que les autres passent très très rapidement. Et ce sont ces familles qui transmettent aux autres les valeurs de la robe et les valeurs parlementaires. Ceci dit, est-ce que certaines branches des baritos n'ont pas été attirées par l'épée? Et question qui, à nous historiens, nous intéresse beaucoup, est-ce qu'il vous semble, au travers de votre famille, qu'il y a une véritable coupure entre la robe et l'épée? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des liens qui peuvent être idéologiques, qui peuvent être matrimoniaux, entre la robe et l'épée?
Oui, je crois que d'abord, il y a une sorte de cliché, peut-être hérité du XIXe siècle, noblesse d'épée d'un côté, noblesse de robe de l'autre. En réalité, on s'aperçoit, en faisant des recherches, et en tout cas, c'est le cas de ma famille, les deux types de noblesse étaient étroitement mêlés, et dans une même famille, on trouve tous les cas. Dans ma famille, je le disais à l'instant, j'ai trouvé 39 officiers, dont une trentaine sous l'Ancien Régime, et bien sûr, beaucoup de gens de robe. Le premier robin que l'on ait trouvé jusqu'à présent, c'est un document de 1540. Il avait un terme dans les archives, je ne me souviens plus exactement du terme, mais enfin, il était procureur, en quelque sorte. Et puis, on en trouve d'autres, procureurs du roi à la Cour des Aides, dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Tout au long du XVIIe et du XVIIIe, on trouve des baritos à la Cour des Aides et au Parlement. Il y a eu 4 conseillers au Parlement. Et en particulier, une branche s'était fait spécialité de la Cour des Aides. Ils ont occupé pendant pratiquement un siècle le poste de premier avocat général à la Cour des Aides. Il faut savoir qu'à la Cour des Aides, il y avait 3 magistrats principaux qu'on appelait les gens du roi et qui représentaient le pouvoir royal. C'était le premier avocat général, le deuxième avocat général, et puis le procureur du roi. Donc ces 3-là représentaient le pouvoir central, et c'est un barito qui a été... Ce sont des baritos successifs qui se sont succédés à ce poste de premier avocat général jusqu'en 1739 à peu près, je crois. Et à ce moment-là, celui qui occupait ce poste a vendu sa charge parce que la Cour des Aides au XVIIIe siècle baissait d'influence, avait beaucoup moins d'importance. Donc ça devenait une charge inintéressante.
Alors, les baritos ont été confrontés aux grandes phases de notre histoire au travers de ces siècles successifs. Est-ce qu'on pourrait les prendre les unes après les autres? Par exemple, quelle est leur attitude au moment des guerres de religion? On sait qu'un certain nombre de familles comme cela sont déchirées par ces guerres de religion, certains choisissant la réforme. Quelle a été l'attitude des baritos?
Bien, j'ai trouvé deux officiers pendant les guerres de religion. Il faut préciser qu'à cette époque-là, les deux officiers qui avaient chacun un corps de troupes, l'un était capitaine d'une compagnie de 200 hommes d'armes, l'autre, son frère cadet, beaucoup moins riche que lui, évidemment, puisque l'aîné avait une grande partie du patrimoine, n'avait qu'une compagnie de 50 hommes d'armes. Il faut savoir aussi que quand les propriétaires de compagnies assumaient tous les frais financiers de ces 200 hommes ou de ces 50 hommes. Et quand on dit 200 hommes d'armes, il y avait en plus l'intendance qui devait suivre. Donc une compagnie de 200 hommes d'armes supposait environ 250 à 300 personnes, puisqu'il fallait les nourrir. Il y avait un valet pour 4 soldats. Il y avait un chirurgien qui était certainement pas très doué dans sa chirurgie, mais enfin, il y avait des chirurgiens. Il fallait fournir les armes, etc. Et l'hiver, en principe, on ne se battait pas. Les armées prenaient leur quartier d'hiver et toujours aux frais du propriétaire. Donc ces deux officiers, on ne sait pas très bien en réalité quel a été leur rôle pendant les guerres de religion. Pour le principal, pour l'aîné, celui qui avait cette compagnie de 200 hommes d'armes, on sait que c'est Henri IV qui l'a confirmé dans son titre de capitaine de compagnie en 1590, et vraisemblablement, il a été fidèle à Henri IV. Mais il faut savoir aussi qu'à cette époque, des guerres de religion ont changé assez facilement de camp suivant l'intérêt. Et ces propriétaires de compagnies allaient au plus offrant. Moi, je te donne un peu plus, viens te battre de mon côté. Vraisemblablement, en tout cas, ça s'est terminé à la fin des guerres de religion. Bien sûr, ils étaient tout à fait fidèles à Henri IV.
Et deuxième période importante pour l'histoire bordelaise à l'époque moderne, la Fronde, deuxième période de révolte. Alors comment se situe-t-il par rapport à la Fronde? Sont-ils fidèles au duc d'Épernon? Prennent-ils parti du roi de France, comme l'ont fait à la même époque les Pontacs, par exemple, ce qui est à l'origine de la fortification du pouvoir des Pontacs au Parlement dans les années 1650?
Je pense qu'au début, ils n'ont pas choisi le très bon cheval, parce qu'ils étaient plutôt dans l'entourage immédiat du duc d'Épernon. Le duc d'Épernon était un homme considérable. Ses contemporains l'appelaient le demi-roi. C'est vous dire la place qu'il occupait dans la société de l'époque. Il a vécu très vieux, puisqu'il était né en 1555, je crois, et qu'il est mort en 1642. Et les Baritaux qui avaient... Donc il était seigneur de Cadillac, comme chacun sait dans notre région, gouverneur de Guyenne, seigneur de Cadillac et comte de Benauges. Et dans ce comté de Benauges, les Baritaux avaient une seigneurie importante à Lado. Donc Pierre de Baritaux et son fils et son petit-fils, Pierre de Baritaux c'était l'officier dont je parlais tout à l'heure, et son fils et son petit-fils ont été tous les trois très proches du duc d'Épernon. J'en veux pour preuve que, en particulier le second, Geoffroy, a été choisi par le duc d'Épernon avec monsieur de Vertamont et avec monsieur de Pontac, tous trois comme exécuteurs testamentaires du duc d'Épernon. Donc ils étaient extrêmement proches. Le duc d'Épernon a favorisé certainement la trajectoire de Jean de Baritaux, petit-fils du capitaine de compagnie, qui était né en 1606 ou 7 et qui est mort en 1679. Et ce Jean de Baritaux, dans le sillage du duc d'Épernon, et vraisemblablement poussé par lui, a été procureur syndic de Bordeaux, c'est-à-dire une sorte de maire, mais qui n'en portait pas le titre, parce que le titre de maire avait été supprimé de 1620 à 1655 par le pouvoir central, étant donné que les Bordelais avaient une fâcheuse tendance à se révolter, souvent pour des raisons financières, d'ailleurs des raisons fiscales, pardon. Et donc le pouvoir royal avait un peu saqué les Bordelais en supprimant le poste de maire. Et donc c'était le procureur syndic, dont nous reparlerons tout à l'heure, qui occupait les fonctions de maire proprement dit. Et ce Jean de Baritaux a été procureur syndic de 1633 à 1639. C'était une charge que l'on achetait. Et à ce moment-là, il a été plutôt du côté d'Épernon, puisqu'il en était l'émanation. Et puis le duc d'Épernon a été viré par Richelieu et Louis XIII, parce que c'était un état dans l'état. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était un des hommes les plus riches de France. Il avait fort mauvais caractère. Il se disputait avec l'archevêque. Il avait même giflé l'archevêque en public. L'archevêque avait riposté l'excommuniant. En excommuniant l'escorte du duc d'Épernon, et pour faire bonne mesure, il avait mis en interdit la ville de Bordeaux et la ville de Cadillac. Mettre en interdit, ça voulait dire empêcher les sacrements. Bon, ça n'a l'air pas très important comme ça, mais comme rappelez-vous qu'à l'époque, bien sûr, en particulier, tous les enterrements étaient des enterrements religieux, donc on ne pouvait plus enterrer les morts. Donc ça a paralysé la vie de Bordeaux pendant quelques jours, ça a été une affaire terrible. Louis XIII s'en est mêlé, il a été obligé de calmer le jeu, et le duc d'Épernon a été obligé de faire des excuses à genoux devant l'archevêque, des excuses publiques. Donc ça suffisait comme ça, Louis XIII et Richelieu trouvaient que le duc d'Épernon, c'était un état dans l'état, donc ils ont fini par l'écarter. Du coup, Barytos s'est retrouvé un peu seul. Et il a été forcé à démissionner parce que Louis XIII et Richelieu le soupçonnaient d'être trop proche du duc d'Épernon. Et puis, à ce moment-là, il a vraisemblablement tourné habilement casaque et il a définitivement pris le parti du roi, ce dont Louis XIV ensuite le récompensa une quinzaine d'années plus tard.
D'accord. Donc vient le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le siècle de la douceur de vivre. Je me souviens d'ailleurs d'avoir croisé... Je crois que c'était Jean-Joseph de Barytos qui était à l'Académie de Bordeaux, l'Académie qui avait été incarnée par Montesquieu, qui fréquentait les cercles des érudits bordelais, en particulier le salon de Madame Duplessis. Et puis, la Révolution. Première période tragique dans l'histoire des Barytos, parce que l'histoire des Barytos, c'est une grande saga familiale. Comment les Barytos vont-ils traverser cette période difficile de la Révolution française ?
Eh ben, ça a été une période difficile pour tout le monde, je pense, d'abord. Il faut bien être conscient que la Révolution a été un traumatisme moral et matériel pour toute la population française, pas seulement pour la noblesse. D'ailleurs, quand on voit la liste des guillotinés en Gironde, les 250 ou 280 guillotinés à Bordeaux, place Gambetta, tout près d'ici, à côté de la porte d'Ijo, on s'aperçoit que les aristocrates étaient tout à fait minoritaires dans cette liste de guillotinés. Donc, au moment de la Révolution, il y avait eu 6 branches des Barytos, mais il y en avait déjà 2 qui étaient éteintes. Donc, il en restait 4. Alors, on va passer d'une branche à l'autre, mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous embêter longtemps avec ces détails. La branche aînée était composée, qui était la plus riche, forcément, puisque c'était la branche aînée, et qui habitait cour de l'intendance. Elle avait son hôtel particulier à l'emplacement de l'immeuble du Crédit Lyonnais, à l'angle du cours de l'intendance et de la rue qui s'en va vers l'église Notre-Dame. Et donc, la branche aînée était représentée seulement par un seul homme, qui avait 3 fils. Donc, lui a été accusé d'aristocratie, et son sort n'a pas été mis en balance longtemps. Il a été guillotiné pour crime d'aristocratie. Et sur ses 3 fils, les 2 aînés, qui étaient déjà adultes, sont partis en émigration, et le 3e, qui était encore tout jeune, a été pris en tutelle par un médecin fidèle de la famille qui l'a recueilli, parce que j'ai oublié de dire que la mère était morte avant la Révolution, donc il n'y avait plus que des hommes dans la branche aînée. Et ce petit garçon a été recueilli par ce médecin fidèle de la famille qui s'est occupé de lui pendant toute la Révolution. Et ses 2 frères, eux, sont partis en émigration, se sont engagés dans les armées dites contre-révolutionnaires. Il y en a eu 3, l'armée dite des princes, l'armée de Bourbon et l'armée de Condé. Ils se sont engagés dans ces 2 armées. Et puis, ils ont fait différentes guerres et sont revenus amnistiés au moment des amnisties sous Napoléon en 1801-1802. Voilà pour la première branche. La deuxième branche, la branche du Carpiat, qui est la seule subsistante aujourd'hui d'ailleurs, avec une branche qui subsiste en Australie et aux États-Unis. La branche du Carpiat, il n'y avait qu'un homme. Qu'un ménage. Il était seul aussi. C'est d'ailleurs assez amusant parce que la branche du Carpiat s'est transmise pendant 5 générations avec un seul garçon. Et elle a démarré au milieu du XVIIe siècle. Celui qui a été à l'origine de cette branche a eu 18 enfants avec la même femme. Et la pauvre. Et sur ces 18 enfants, il y en a un seul qui a fait souche. Et ensuite, pendant 5 générations, il y a eu un seul garçon. Donc au moment de la Révolution, il y avait un seul garçon qui était un célibataire endurci et qui s'est marié qu'en 1795. Et lui habitait... Il n'a pas eu le moindre problème. Autant la branche aînée avait été fort malmenée. Et lui est resté dans le Bazadais, au Carpiat. Et là, Il s'est rien passé. Enfin, il a dû avoir quelques moments de frayeur, mais rien de grave. Il a même été maire de son village de 1792 à 1808 sans interruption, aux grandes dames des autorités révolutionnaires qui ont envoyé des plaintes par écrit aux conseillers municipaux en leur disant « Écoutez, c'est inadmissible qu'un aristo soit encore maire du village. » Et d'ailleurs, je vous rappelle la nouvelle loi du Thermidor, je ne sais plus combien, qui interdit aux aristocrates ou aux ci-devants aristocrates, plutôt, d'exercer un mandat public, etc. Bon, lui, il a été maire, et puis voilà. Et il ne s'est rien passé pour lui. Voilà pour la deuxième branche. La troisième branche, dite branche d'Arbis, à ce moment-là, au moment de la Révolution, il y avait beaucoup d'officiers, dont 8 gardes du corps. Gardes du corps du roi. Les gardes du corps du roi faisaient partie de la maison militaire du roi. C'était les régiments les plus prestigieux puisqu'ils assuraient la sécurité du souverain. Et donc, sur ces gardes du corps, d'abord, il y en a 4 qui ont eu une aventure extraordinaire qui n'est pas du tout connue. J'ai découvert ça. C'est un événement de la Révolution que bien peu de gens connaissent. Après le retour de Varennes, en juillet 1791, Louis XVI, Marie-Antoinette et leurs enfants sont revenus assez lamentablement donc, de cette épopée de cette mauvaise équipée de Varennes, et ont été d'abord prisonniers aux Tuileries avant d'être enfermés à la Tour du Temple. Et pendant qu'ils étaient prisonniers aux Tuileries, il y a 405 volontaires, essentiellement des gardes du corps du roi, qui se sont proposés au gouvernement révolutionnaire, aux autorités révolutionnaires, en otage à la place du roi. Donc 4 baritos. Et le but était évidemment de faire délivrer Louis XVI et eux prenaient sa place en prison, avec le risque d'être guillotinés, évidemment. Et donc 4 baritos se sont proposés comme otages. Et il y a même eu une famille, tenez-vous bien, dont 7 membres se sont proposés en même temps. J'ai oublié le nom de la famille, qui est une famille éteinte d'ailleurs, je crois. Donc sur ces 4-là, les autorités révolutionnaires ont refusé cette proposition d'otage. Évidemment, ils préféraient garder le roi en otage, c'était plus intéressant. Et donc les autres sont partis en émigration aussi, avec des destins divers. 2 sont morts en émigration. Et les autres, ils ont commencé par s'engager dans les armées des émigrés, dont je parlais tout à l'heure. Et puis après, quand on a vu que les événements français étaient définitivement, qu'on ne retournerait pas en arrière, et que le consulat, etc., stabilisait la situation. Ils ont quitté l'armée avec l'autorisation de Louis XVIII, qui c'était le comte de Provence, frère de Louis XVI, qui s'était proclamé roi en 1795 après la mort du dauphin au Temple. Et donc Louis XVIII les a autorisés à quitter l'armée. Toutes ces armées, ces différentes armées des émigrés se sont décomposées. Et il a fallu trouver du travail parce qu'ils n'avaient évidemment pas d'argent. Donc il y en a un qui a donné des leçons de peinture, un autre qui a donné des leçons de français, un troisième qui a ouvert un magasin de chemises. Et puis ils se sont débrouillés comme ils ont pu. Et voilà pour cette branche-là. Et ils sont revenus après la Révolution indemnes, on va dire. Et puis les autres branches, donc je vous ai dit qu'il y en avait 2 qui étaient éteintes déjà avant la Révolution. Il en restait une dans le Bourget, la branche dite de Campelatte, qui par chance est passée un peu au milieu de la tempête sans trop de dommages. Ils se sont fait tout petits chez eux et puis voilà, ils ont échappé au pire drame.
Oui, alors il y a vraiment 2 choses là qui sont très très intéressantes, qui m'ont beaucoup intéressé. La salle a réagi d'ailleurs, c'est quand vous avez parlé de démographie, ce passage des 18 enfants à l'héritier unique, ben c'est tout à fait ce que mon ami et collègue Stéphane Mainviel trouve pour plusieurs familles, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, les familles de la noblesse restreignent les naissances. C'est pas suffisamment dit et connu, mais ce qui explique d'ailleurs ce phénomène d'extinction, parce qu'en fait ces familles sont engagées dans un processus de préservation des biens hein, et de préservation du lignage. La deuxième chose qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'ils se mettent à travailler sous la Révolution en émigration dans des professions manuelles qui étaient dérogeantes avant la Révolution parce qu'ils sont confrontés à la nécessité. Et du point de vue des mentalités, c'est extrêmement intéressant quand on travaille en particulier sur les écrits du fort privé. Bon, on est passé au 19e siècle. Donc, le 19e siècle, à la suite de la Révolution, les familles nobles modifient leur attitude et du point de vue politique. et en particulier après la révolution de 1830. Alors j'aimerais savoir si les Baritaux se sont investis dans le mouvement monarchiste bordelais. Il y a Jean-Claude Rouin qui en est le meilleur spécialiste au premier rang. Donc est-ce qu'ils se sont investis dans le mouvement monarchiste bordelais, y compris sous la Troisième République? Est-ce qu'ils font partie des opposants légitimistes au pouvoir républicain? Et jusqu'à quand éventuellement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce niveau-là?
Oui, d'abord pour la branche aînée, on va la passer rapidement parce que donc ce guillotiné qui avait trois fils, les deux aînés sont revenus d'émigration comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le troisième a grandi chez un médecin, les deux aînés sont morts sans alliance, le troisième s'est marié, a eu deux enfants qui eux ne se sont pas mariés. Donc la branche aînée s'est éteinte dans la première moitié du 19e siècle. Elle avait été très frappée non seulement moralement mais aussi financièrement parce que tous les biens avaient été saisis. On en a rendu un petit peu au petit dernier puisqu'il était mineur. Mais enfin bon, ils se sont éteints certainement très touchés moralement aussi. Donc il restait principalement la branche du Carpia avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un seul garçon. Donc celui-là, c'est... D'abord, sous la Restauration, il a été garde du corps du roi aussi. Puis il a été orphelin. Son père est mort en 1818. Et comme il était fils unique, il est revenu à Bordeaux pour s'occuper de ses affaires avec sa mère. Et son fils, né en 1829, lui a été un militant royaliste, si je peux dire. Il a commencé par se faire élire sous Napoléon III en maire de son village. Et il est mort en 1913. C'était mon arrière-grand-père, donc c'est relativement proche. Et il est mort en 1913. Et de 1856 à 1912, il a été élu sans interruption dans son village. Et en 1871, après la chute de l'Empire, du Second Empire, il s'est présenté au Conseil Général comme candidat royaliste. Il a été élu. Ça se passait dans le sud de la Gironde, qui était une région, on va dire, très traditionnelle. Et il y avait trois conseillers généraux royalistes, Monsieur de Baritaux, Monsieur de Lursalus et Monsieur de Savron-Pont-de-Vesse, chacun dans un des cantons du sud Gironde. Et Monsieur de Lursalus et Monsieur de Baritaux, et tous les trois d'ailleurs, étaient surveillés par la police. Et la police, il y avait un policier qui leur était spécialement affecté et qui faisait ses rapports au préfet. Et puis en 1800, donc mon arrière-grand-père a été élu conseiller général en 1871. Et en 1889, il est fidèle à ses idées. 88, pardon, il a signé. Tout comme Lursalus et Savron-Pont-de-Vesse, il a signé, au moins Lursalus, Savron-Pont-de-Vesse, j'en suis moins sûr parce que j'ai moins étudié la chose. Il a été moins militant, moins actif, donc il paraît moins dans les papiers. Lursalus et Baritaux ont été élus conseillers généraux royalistes et en 1888, donc, ils ont signé une adresse de fidélité après la mort du comte de Chambord, petit-fils de Charles X. Ils ont signé une adresse de fidélité au comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, qui avait repris le flambeau de la prétendance au trône. Et le fait d'avoir signé cette adresse de fidélité a entraîné que le président de la République, Jules Grévy, a révoqué Baritaux de ses mandats. On a retrouvé dans les archives familiales la révocation de M. de Baritaux, conseiller général royaliste et maire de son village, par Jules Grévy, la signature de Jules Grévy, contresignée par le préfet de la Gironde après. Et pendant cette période-là, M. de Lursalus et M. de Baritaux, qui avaient l'un et l'autre des moyens financiers assez importants, ont créé un journal royaliste pour le Bazadé, qui s'appelait « Le Bazadé ». Et on a retrouvé malheureusement pas toutes les correspondances, mais enfin une partie des correspondances qui évoquent la mise en place de ce journal. Et puis, une fois la révocation de mon arrière-grand-père par Jules Grévy, il ne s'est plus représenté au Conseil général. Il a continué à être maire. Et il a été remplacé dans son canton par un de ses lointains parents qui s'appelait M. de Gasque, et qui a été lui aussi conseiller général royaliste un mandat de plus. Donc en fait, le sud de la Gironde au moins, je ne connais pas le reste du département, mais le sud de la Gironde au moins est resté royaliste pratiquement jusqu'au tournant du XXe siècle.
D'accord. Alors, on a retracé donc toute une histoire familiale. Maintenant, si l'on vous demandait d'en mettre un en valeur, lequel serait votre préféré et pourquoi ?
C'est une question un peu difficile parce que de la fin du XVe siècle à nos jours, il y en a quand même pas mal. Mais je crois que celui qui m'intéresserait le plus de creuser un peu sa vie, parce que j'ai trouvé pas mal de choses, mais il y a encore beaucoup de découvertes à faire, étant donné qu'il vivait au XVIe siècle, les archives ne sont pas très faciles à retrouver. C'est Pierre de Baritaud, qui était né en 1545, qui a vécu longtemps, parce qu'on parlait tout à l'heure de la longévité, mais il ne faut pas s'imaginer que tout le monde mourait comme des mouches à 18 ans. Il y avait une mortalité à la naissance qui était très forte, parce que les sages-femmes étaient ignorantes et maladroites. Après ça, il y avait les maladies d'enfance, les épidémies, etc. Mais quand on avait réussi à franchir tous ces caps, on pouvait vivre jusqu'à 80 ans, et les cas n'étaient pas rares. Bon, il y a le cas de Louis XIV, évidemment, mais il y en a eu bien d'autres. Donc, ce Pierre de Baritaud a vécu très longtemps. Il était le chef de la famille, l'aîné de la famille, et il était fort riche. Et il a eu... c'était un homme à de nombreuses facettes. C'est pour ça qu'il m'intéresse particulièrement. Parce qu'il était un riche notable. Il avait au moins deux ou trois seigneuries, dont des seigneuries urbaines. On s'imagine toujours que les seigneuries sont les propriétés à la campagne. Pas du tout. Il y avait aussi des seigneuries urbaines. Donc il avait une résidence à Saint-Macaire. Et sa seigneurie urbaine était composée par 36 maisons dans Saint-Macaire, plus des terres à l'extérieur. Il avait donc des seigneuries. Il était propriétaire, on l'a dit tout à l'heure, d'une compagnie de 200 hommes d'armes. Donc il avait un rôle militaire d'autant plus important qu'il faut se rappeler qu'à cette époque, les armées étaient très peu nombreuses. Elles étaient encore très médiévales. Et avec quelques milliers d'hommes, vous aviez fait le tour d'une armée. Donc une compagnie de 200 hommes d'armes, c'était très important. Et il a été aussi négociant. Vous parliez tout à l'heure de la dérogeance. Contrairement à ce qu'on croit, le travail n'était pas du tout interdit à la noblesse. Ce qui était interdit à la noblesse, c'était le travail en boutique. Mais on pouvait être parfaitement négociant. Et d'ailleurs, il y a une ordonnance de Louis XI, je crois, en 1450 et des poussières. Et de cette époque-là jusqu'à Louis XVI, les rois de France ont fait un maximum pour pousser la noblesse à s'intéresser aux affaires industrielles et commerciales, avec la plupart du temps pas tellement de succès, d'ailleurs. Bon, il y a eu les Ursalus au XVIIIe siècle qui sont devenus industriels, mais enfin, c'était un cas rarissime, surtout dans notre région. Donc ce Baritaud a été négociant. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est qu'on a retrouvé un document en particulier où on dit qu'il est négociant au-dedans et au-dehors du royaume. Donc, il faisait de l'import-export, pour parler moderne. Et vraisemblablement en céréales, et non pas en vin, parce que c'était un peu tôt. Le commerce du vin au VIe siècle n'était quand même pas tellement développé. Et surtout l'exportation. Et en plus, dernier aspect, dernière facette de ce Baritaud, il prêtait de l'argent aux notables. Il faut se rappeler que le système bancaire était à peu près inexistant. Bon, on connaît tous les grands banquiers, les Médicis dès le XVe siècle, qui étaient les banquiers de l'Église, c'est comme ça qu'ils ont fait fortune. Les Fugger en Allemagne, qui étaient les banquiers du Saint-Empire. Le Samuel Bernard, le célèbre banquier de Louis XIV. Mais tout ça, c'était dans les très grandes villes et un échelon un peu national. Mais au niveau local ou régional, il n'y avait pas de système bancaire, enfin, sauf si les historiens me disent le contraire, mais je crois qu'il n'y avait pas grand-chose, en tout cas. Donc les prêts entre particuliers étaient monnaie courante, si je peux dire, étaient pratiques courantes. Et ce Baritaud, qui avait une fortune importante, puisque j'ai calculé qu'il avait, à la fin de sa vie, donc sous Henri IV, il avait une fortune d'environ 300 000 livres, ce qui était considérable, il prêtait l'argent. Il n'était pas le premier de sa famille, puisque son père en faisait autant, probablement à une échelle moins importante, et que deux de ses fils ont continué la même pratique. Donc c'est pour ça que cet homme m'intéresse particulièrement, parce qu'il a vraiment eu une vie extrêmement multiple.
Voilà. Je confirme qu'effectivement, un certain nombre de familles, de manière très spécialisée d'ailleurs, je pense par exemple au XVIIe siècle, une famille comme les Suduiraux, ont un rôle de prêteur dans la ville pour... remédier à l'absence de système bancaire. Oui. Alors, vous avez parlé de seigneurie urbaine. Ça m'a fait penser à une question. Les Baritauds ont-ils été impliqués dans la gestion municipale de notre ville, de la ville de Bordeaux ?
Oui. Alors, les Baritauds, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, sont arrivés vraisemblablement au 15e siècle ou fin 14e. Ils sont arrivés à Saint-Macaire. Il faut savoir que Saint-Macaire, qui est aujourd'hui un petit village un peu endormi, au 15e et 16e siècle, était une ville très importante, puisqu'il y avait 5 à 6 000 habitants, alors qu'en même temps, Bordeaux elle avait environ 30 000. Donc Saint-Macaire représentait environ 15 à 20% de la population bordelaise. C'est vous dire l'importance de la ville. Donc ils ont commencé à Saint-Macaire, où ils étaient jurats d'ailleurs, et puis très vite, ils ont choisi Bordeaux, parce que c'était quand même Bordeaux, la grande ville qui attirait, c'était le siège du pouvoir régional, le Parlement, etc., etc. Donc ils se sont installés à Bordeaux, et non pas à Bazas, qui n'avait pas tellement d'intérêt par rapport à Saint-Macaire. Et à Bordeaux, ils n'ont pas occupé des fonctions municipales tout de suite, mais disons qu'il y en a deux au total, que j'ai retrouvé en tout cas, qui ont occupé des fonctions. Le premier, c'est Jean de Baritaud, dont je vous parlais tout à l'heure, qui a été procureur syndic de Bordeaux de 1633 à 1639. La municipalité bordelaise fonctionnait, enfin je résume évidemment, fonctionnait de la manière suivante. Il y avait 6 jurats qui étaient élus pour 2 ans. Et ces 6 jurats étaient composés par 2 jurats gentilshommes, 2 jurats juristes et 2 jurats bourgeois et marchands. Les bourgeois et marchands, c'était à l'époque, on dirait aujourd'hui un peu un citoyen d'honneur, mais qui avait en plus un gros avantage, c'est qu'il y avait des avantages fiscaux. Donc tout le monde avait envie d'être bourgeois et marchand, mais on pouvait très bien trouver des bourgeois et marchands d'origine relativement modeste. Il suffisait d'être un artisan un peu aisé et on pouvait être bourgeois et marchand. Il y avait 2 conditions. Il fallait habiter Bordeaux depuis au moins 5 ans et être propriétaire d'une maison d'une valeur égale à au moins 5000 livres. Oui, dans quoi on pouvait être bourgeois et marchand. Donc, en plus de ces 6 jurats, il y avait un grand conseil consultatif, une grande assemblée, l'assemblée des 130, qui gouvernait, enfin qui prenait les grandes décisions de gestion de la ville. De temps en temps, on les réunissait. Donc, il y avait le procureur syndic qui faisait donc office de maire, puisque je vous ai dit que la fonction de maire avait été supprimée, les 6 jurats, des représentants du Parlement. Et des bourgeois de Bordeaux, donc ceux qui avaient vraiment été reçus bourgeois. Et cette assemblée des 130 prenait les grandes décisions. Donc ce Jean de Baritaud a été pendant 6 ans quasiment maire de Bordeaux. C'est une époque où la ville de Bordeaux était en ébullition permanente. Il y a eu la révolte de l'Ormée, il y avait la Fronde qui couvait, etc. Et Richelieu avait besoin d'argent, bien entendu. Et un jour, Richelieu a dit qu'il fallait augmenter les impôts, mais à l'époque, ça ne se passait pas exactement comme aujourd'hui, bien sûr. Donc il a dit, Bordeaux, je vous taxe, c'est 400 000 livres. Alors les Bordelais ont hurlé en disant, mais c'est beaucoup trop cher, on n'a pas les moyens, etc., etc. Et les Bordelais ont envoyé, enfin la municipalité a envoyé 2 délégués à Paris, à la cour, auprès du roi, pour plaider la cause de Bordeaux. Et c'était donc Jean de Baritaud qui est parti avec monsieur de Mornac. Et ils sont partis et ils ont eu comme ça pendant plusieurs années des navettes à faire entre Bordeaux et la cour. Ils allaient en mission, on leur demandait d'implorer le roi d'avoir pitié de son peuple bordelais. Et les Bordelais avaient proposé, la municipalité avait proposé 200 000 livres. Et donc, Richelieu, évidemment, n'était pas d'accord. Enfin bon, donc il y a eu des allées et venues comme ça tout le temps. Ils venaient rendre compte de leur mission, ils repartaient, et puis on leur donnait des missions complémentaires, parce que le gouvernement avait prévu de taxer le vin, et en particulier le vin qui circulait en bateau. Enfin bref, ça a été assez compliqué. Et Baritaud a eu un problème, c'est que il était un peu pris de tous les côtés, étant donné que le premier jurat, M. Desnault, était son cousin issu de Germain, et que on dirait aujourd'hui, ça s'appelait à l'époque le trésorier, bien sûr, mais le directeur financier de la ville avait un fils aîné qui avait épousé une Baritaud. Donc c'était un peu une affaire de famille, tout ça, et ce qui ne simplifiait pas son rôle. Et puis il y a eu une aventure assez amusante aussi pendant ce mandat. C'est l'affaire du maire de Bordeaux qui a fait un gros scandale à l'époque. Aujourd'hui, ça nous paraît ridicule, mais c'est l'affaire suivante. La tradition voulait qu'on mettait devant l'hôtel de ville et devant la résidence du gouverneur, donc le duc d'Épernon, deux maires pour célébrer ses mandats. On s'imagine aujourd'hui, je le disais dans le Sud-Ouest il n'y a pas très longtemps, que les messes étaient une tradition républicaine. C'est absolument stupide, c'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Et on mettait un mets devant le domicile des gens qui occupaient une charge publique. Donc il y avait un mets devant l'hôtel de ville et un mets devant la résidence du gouverneur. Et ces mets étaient ornés d'une part par le blason de France, donc les fleurs de lys, et le blason du gouverneur. Devant sa résidence, et puis devant l'hôtel de ville, sur le mets, il y avait les fleurs de lys, bien sûr, et le blason de la ville. Et à ce moment-là, il y a un Jura qui a voulu vraisemblablement titiller un peu le duc d'Épernon, qui lui a dit « Enfin, c'est invraisemblable, c'est très choquant, on n'a pas mis vos armoiries sur le mets de l'hôtel de ville, mais ils font exprès pour vous humilier, ces Juras sont épouvantables, etc. » Le duc d'Épernon, qui avait très mauvais caractère, a pris la mouche. Et il a dit « Oui, écoutez, Barito, il faut arranger ça. » Alors, seulement Barito, il était un peu le maire de Bordeaux, mais il était aussi le vassal du duc d'Épernon. Donc il était pris entre le marteau et l'enclume. Et il n'a rien trouvé de mieux pour essayer de se défiler, pour ne pas prendre position. Il s'est fait porter pâle. Et il a dit « Je suis malade, le médecin m'a obligé à garder le lit, je suis aux abonnés absents ». Alors à ce moment-là, les jurats ont dit « On vous démissionne ». Qu'est-ce que c'est que ce procureur syndic qui ne veut pas faire ce que, de prendre parti pour nous, etc. On le vire. Le duc d'Épernon, attendez, c'est moi qui vais vous virer. Parce que il a dit textuellement dans le document, les jurats, on en trouvera d'autres aussi doués que vous, sûrement. Donc on va vous virer. Enfin, ça a duré 2 ans. Les Bordelais ont pris fait et cause pour les uns et pour les autres. Et puis finalement, ça s'est terminé. On a trouvé un vieux document qui prouvait que ça avait toujours été comme ça, que les maîtres de Bordeaux avaient toujours été comme ça et que ce n'était pas la peine d'en faire un foin. C'est un épisode amusant qui dénote aussi la mentalité de l'époque. Voilà pour le premier Barito, donc directement impliqué dans la gestion de la ville. Le second, c'était sous la Restauration. C'était Bertrand de Barito qui était né en 1770, qui avait commencé sa carrière comme garde du corps du roi. Il était parmi les 4 qui se sont proposés en otage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis ça n'a pas marché, donc il est parti en Allemagne. Il s'est engagé dans une des 3 armées. Et puis, à la fin des années 1790, donc quand on a vu qu'en France, il n'était plus question de rétablir la monarchie et que ses armées ont été dissoutes, lui, avec l'autorisation de Louis XVIII, s'est engagé au service du tsar de Russie, où il a été en garnison au Kremlin, comme officier, jusqu'en 1815. En 1815, pendant ce temps, la France, Napoléon était tombé, etc. Louis XVIII commençait à revenir en France, et lui a démissionné de l'armée russe, et il a été chargé d'une mission auprès de Talleyrand, le ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII. Mais en traversant la Prusse, les Prussiens l'ont mis en prison, en disant « Il n'est pas question que vous alliez voir Louis XVIII et Talleyrand, tant que notre roi Frédéric Guillaume Ier n'est pas revenu du célèbre congrès de Vienne ». Donc il a fait 3 mois de prison. Heureusement, le roi de Prusse a fini par revenir du congrès de Vienne, donc on l'a relâché. Il est allé rejoindre Louis XVIII qui, pendant ce temps, lui, les événements ayant bougé, faisait route vers la France. Et il a fait partie de l'escorte des officiers qui ont accompagné Louis XVIII pour rentrer en France aux Tuileries, avec l'entrée triomphale que l'on sait, puisque les Français applaudissent toujours les vainqueurs et changent de veste assez facilement. Et donc, il est resté peu de temps aux Tuileries, et il est revenu à Bordeaux, il s'est marié, et en 1820, Louis XVIII, qui avait de la mémoire et qui donc se souvenait que ce Barito avait été très fidèle, l'a nommé adjoint au maire de Bordeaux. Il faut savoir qu'à l'époque, le maire et les 6 adjoints étaient nommés par le roi. Il n'était pas élu, il était nommé. Donc il a été nommé par Louis XVIII, on possède la nomination signée des Tuileries, etc. Nommé par Louis XVIII, 4e adjoint, puis second, puis premier. Et ceci jusqu'en 1826, et au cours de ces années, il a été au moins à 2 reprises maire par intérim. Et puis en 1826, pour une raison inconnu, en tout cas que je n'ai pas retrouvé, il a démissionné brutalement. Et malgré l'insistance du ministre de l'Intérieur qui lui a dit « Mais écoutez, restez, il faut des fidèles à l'hôtel de ville de Bordeaux, restez », il n'a rien eu à faire, il a démissionné. Donc voilà pour ce... Et finalement, il était né en 1770, pardon, et il est mort en 1860, il a vécu 90 ans. Voilà.
Merci. Alors, la puissance d'une famille, elle s'est toujours incarnée dans la pierre. Quelles sont les demeures? Alors, on a parlé de Saint-Macaire, on a parlé du Bazadet, on a parlé de l'Ado à un moment donné, de Bordeaux. Quelles sont les demeures qui ont incarné la puissance des Barytos, la présence de la famille dans la région?
J'ai retrouvé une soixantaine de propriétés dans ce qu'on appelle la petite Guyenne, c'est-à-dire qui correspond grosso modo à l'actuel département de la Gironde, une soixantaine de propriétés du 15e siècle au 21e, je dirais. Donc il n'y a pas eu 60 propriétés dans la famille en même temps et de très loin. Bon, un certain nombre ont disparu. Parmi celles qui restent, je citerai la maison Barytos à Saint-Macaire, forcément, qui est une maison qui est dessinée d'ailleurs par Léo Drouin dans sa Guyenne militaire, qui est une maison intéressante sur le plan architectural. Malheureusement, elle est en assez mauvais état à l'heure actuelle, très mauvais état même. Et il y a également à Saint-Macaire une autre maison qui est justement le siège d'une des seigneuries de Pierre de Barytos au XVIe siècle, de ces seigneuries urbaines dont je vous parlais tout à l'heure. La maison existe encore, en très bon état, sur la place du Marcadieu, qui est la principale place de Saint-Macaire, pour ceux qui connaissent. Et cette maison est aujourd'hui transformée en HLM, mais enfin, bon, elle est entretenue. Voilà pour les maisons. L'hôtel particulier principal de la branche aînée était cours de l'intendance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il a été rasé peu de temps après la Révolution et pour être remplacé par l'immeuble qui est actuellement, qui doit dater des années 1830 à peu près. Il y a encore une propriété à côté de Saint-Macaire, dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-de-Sescas, qui s'appelle Machor, et qui est encore entretenue et habitée, qui a été aussi au Barytos au XVIe et au XVIIe siècle, et qui ensuite est passée par héritage à la famille de Spins de Lancre. Il y a le château de Terrefort à Saint-André-de-Cubzac, qui est une très belle propriété qui appartient aujourd'hui à la famille Cancard et qui a été achetée par Raymond de Barytos, qui était le second fils de l'officier dont je vous parlais tout à l'heure, le second fils de Pierre de Barytos. Ce Raymond de Barytos a été, lui, gentilhomme de la chambre du roi sous Louis XIII. Donc c'est lui qui avait acheté Terrefort, vraisemblablement vers 1615 ou 1616, à peu près à cette époque-là. Et ce Raymond de Barytos n'a eu que deux filles, donc c'est passé à une de ses deux filles, et aux héritiers de cette fille ensuite, qui l'ont vendu au début du XVIIIe siècle à la famille Chaperon de Libourne, qui s'est d'ailleurs appelée Chaperon de Terrefort. Et puis voilà, donc ce château de Terrefort existe toujours, fort bien entretenu, et c'est le siège d'un cru. Il y a le Carpia, qui appartient toujours à la famille et qui est situé dans le triangle Langon-Bazas-Laréole, à côté d'Oros, dans la commune de Castillon de Castets, et qui a été acheté par Jean de Barytos en 1641, qui est toujours à la famille, et c'est là que sont d'ailleurs les archives en dépôt, les archives familiales. Il y a évidemment Roquetaillade, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est arrivé à la famille au XIXe siècle, en 1884, par mon arrière-grand-père, justement celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a hérité de son cousin, monsieur de Mauvezin. Il a hérité de Roquetaillade et Mauvezin en Médoc, à Moulis-en-Médoc, qui est toujours dans la famille. Il y a aussi une propriété à Tresse, qui s'appelle le château Lisaine, qui est aussi le siège d'un vignoble actuellement et qui est une belle chartreuse du fin 17e, début 18e. Et il y a même une propriété qui s'appelle Barytos, qui est à Carignan, qui appartient aujourd'hui à la famille de Serval et qui est qui a une origine ancienne, qui a été un peu remaniée sûrement, et qui a appartenu au Barytos, mais pas très longtemps, pendant deux ou trois générations au XVIIIe siècle. Voilà. Bon, puis les autres, la plupart d'entre elles ont disparu corps et bien. Quelquefois, il y a un lieu-dit qui signale leur existence, mais c'est tout.
Alors, pour finir, je voudrais terminer par une question un petit peu plus personnelle. Comment le livre a-t-il été reçu par votre famille, par vos amis? Ils sont, remarquez, on a déjà une partie de la réponse puisqu'ils sont nombreux ici ce soir, car vous contribuez incontestablement à la mémoire de la famille.
Oui, je crois qu'au départ, la famille n'a pas pris très au sérieux mon idée de livre, parce qu'ils étaient, restés sur le schéma d'une généalogie classique. Ça n'avait pas un intérêt fou. On connaissait notre branche, c'est-à-dire la branche du Carpia, puisque les autres sont éteintes. Et les autres, on n'en avait qu'une une connaissance plus que théorique. Et bon, ça n'a pas été pris très au sérieux. Mais je crois que depuis que le livre est sorti, ça a été mieux compris. Mes amis, il y en a un certain nombre ici ce soir, comme vous venez de le dire fort justement. Mes amis, je crois, s'ils sont intéressés, ont compris le but, l'esprit dans lequel je faisais ce livre. Quant aux universitaires, votre présence et votre préface en témoignent. Et puis, il y a beaucoup d'autres universitaires qui se sont intéressés à mon livre et qui m'ont fait le plaisir de le trouver convenablement fait. J'ai reçu, je vais pas être très modeste, mais tant pis, j'en suis très fier, donc je le dis, j'ai reçu un prix spécial de l'Académie de Bordeaux. J'ai été invité à une émission de radio également, une émission historique d'une radio régionale, et je suis invité au mois de mars à le présenter à la Sorbonne, ce qui me fait particulièrement plaisir. Voilà, donc je pense que je suis prêt, non pas à écrire un tome 2, mais enfin, pourquoi pas.
Bien, je vous remercie, je crois qu'on peut vous applaudir pour nous avoir passionnés.